l'Agence des Nations Unies sur l'océan. Ceci est un message du gouvernement.
La tournée des meilleurs artisans de France RMC arrive près de chez vous. Jusqu'au 11 juillet, retrouvez-nous sur une tournée de 14 dates partout en France. Petit déj offert, démo d'outils, présentation de véhicules utilitaires, jeux concours et l'enregistrement d'une émission 100% artisan sur un plateau RMC délocalisé. Info sur rmcmeilleursartisansdefrance.fr. On compte sur vous.
La tournée des meilleurs artisans RMC, c'est 14 dates partout en France. Kiloutou, louez, partagez. RMC. Demain, c'est vendredi 13.
Et comme tous les vendredis 13 sur RMC, vous avez de fortes chances de gagner de l'argent. Toute la journée, des tickets à gratter, jusqu'à 13 000 euros à gagner.
Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant. Envoyez chance par SMS au 732-16. Chance au 732-16.
Demain, provoquez la chance. Gagnez jusqu'à 13 000 euros sur RMC.
Dans un instant, le meilleur de l'actu sur RMC. On parlera du nombre de jours de vacances idéales, de la santé mentale des jeunes et également de ces gens qui se baladent torse nu dans la rue. RMC 13h01. Le flash tout de suite avec Clément Guide.
Bonjour Estelle, bonjour à tous. Une minute de silence observée ce midi devant tous les établissements scolaires. Deux jours après le meurtre d'une surveillante dans un collège de Nogent en Haute-Marne, surveillante poignardée par un adolescent de 14 ans. Le parquet de Dijon a requis ce matin sa mise en examen pour meurtre. Sujet évoqué donc par Emmanuel Macron lors du Conseil des ministres ce matin, comme l'affirme la porte-parole du gouvernement, Sophie Prima.
Ce Conseil des ministres a été marqué par une intervention assez importante du président de la République pour évoquer son émotion, également parler de ce drame de Nogent comme une désinhibition de la violence dans notre pays, pour laquelle il va falloir évidemment apporter des solutions. En réalité, le président de la République a rappelé que ce travail est un travail de longue haleine, qu'il n'y a pas de mesures qui soient des mesures magiques. C'est un travail qui va consister à s'attaquer à toutes les causes dans leur diversité.
Une marche blanche organisée par la famille aura lieu demain à 18h. Le départ est prévu devant le collège direction l'hôtel de ville. La dissolution du mouvement antifasciste Jeune Garde et du groupe ultra-droite Lyon Populaire annonce ce midi le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur le réseau X. Le ministre promet de rien laisser passer. Rima Hassan et 5 autres militants expulsés d'Israël aujourd'hui. Ils sont en route pour l'aéroport et vont rejoindre leur pays. Ils avaient été interpellés alors qu'ils tentaient de rallier à Gaza à bord d'un voilier humanitaire. Ce crash en Inde, un Boeing d'Air India transportant 242 personnes s'est écrasé ce matin, quelques minutes après son décollage de l'aéroport d'Ahmedabad. Parmi les passagers, 169 Indiens, 53 Britanniques, 7 Canadiens. Avion qui devait se rendre à Londres. Aucun bilan n'a pour l'instant été communiqué. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a adressé ses pensées aux passagers et leurs familles. Et Estelle, place aux courses RMC.
Tout à fait, avec le quintet qui a lieu à 20h15 sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, dans la discipline du plat. 13 concurrents âgés de 4 ans et plus s'affronteront sur la distance des 1400 mètres.
Et quel est votre prono du jour?
Le numéro 9, Forchester. Il reste sur deux bonnes performances sur ce parcours. Et à ce niveau, il est compétitif pour un bon classement aujourd'hui.
RMC, c'était les tuyaux d'Estelle.
13h03, la suite d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story, avec Rémi Barré, avec le propriétaire de Gîte, Jérôme Lavrieux, avec la militante écologiste Anne-Sophie Saint-Père et le journaliste maison Fred Hermel. Dans un instant, le meilleur de l'actu sur RMC à 13h30. Faut-il conditionner les APL des étudiants aux revenus de leurs parents? Vous pouvez réagir, bien sûr, à ce débat au 32-16 et sur l'appli RMC à 14h. Les Français qui délaissent la blanquette, le bœuf bourguignon et l'andouillette. Est-ce que la cuisine de mamie, c'est fini? Dites-nous si vous continuez à cuisiner ce genre de plat et à essayer de montrer à vos enfants voilà tous ces plats de grand-mère. On vous attend au 32-16 et sur l'appli RMC. RMC Conso sera à 14h30 avec Charlotte Méritant. On vous donnera des solutions pour vous marier moins cher. Et puis 13h50, le dame cour du jour. Et comme c'est jeudi, Pierre-Antoine, c'est le répondeur, les meilleurs messages.
Eh oui, bonjour Estelle. Les meilleurs messages de nos auditeurs au 32-16, ils sont triés à la main, un par un, pour vous offrir le meilleur, la meilleure récolte, le nectar du message. Alors le premier, c'est peut-être pas le fruit le plus mûr du verger. On écoute.
Ouais, bonjour, c'est Kevin. Demain, c'est le bac de français. Alors, faites bien vos révisions, buvez pas trop d'alcool ce soir et surtout, croyez en vous. Hein. Moi, je le passe pour la 12e fois cette année, mais cette fois, c'est sûr, je vais l'obtenir.
Ouais, Estelle, vous faites pas gagner des bécherelles dans l'émission, non?
Non, pas encore, mais effectivement, on pourrait peut-être.
On va lui en envoyer un. Allez, un deuxième message, c'est parti.
Oui, bonjour, c'est Ahmed de Drancy. Voilà, j'ai vu que les ministres avaient publié leur déclaration de patrimoine et que c'est Gérald Darmanin qui a la plus petite. Voilà, c'était juste pour le plaisir de dire que Gérald Darmanin a la plus petite. Bonne journée.
Bon, bravo Ahmed. Et nous, on se retrouve à 13h50 avec la suite des messages du répondeur.
13h50, madame.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le meilleur de l'actu sur RMC. On démarre avec Apolline Matin. Comment expliquer le passage à l'acte dans le drame de Nogent? Ce drame survenu lundi à Nogent-sur-Marne. Le procureur de la République a déclaré hier que le suspect de ce meurtre, un collégien de 14 ans, n'avait exprimé aucun regret ni aucune compassion après son acte. Un passage à l'acte peut être lié à un problème de frustration masculine, selon le psychanalyste Pascal Neveu, invité ce matin d'Apolline de Malherbe.
Alors on observe de plus en plus une frustration des jeunes garçons, peut-être dans une difficulté par rapport à leur masculinité, à leur virilité. Il faut observer vraisemblablement qu'il n'y aurait eu que des surveillantes femmes. Il n'y a pas d'hommes surveillants dans cet établissement. Est-ce que cette répression qui a eu lieu, cette réprimande qui a eu lieu le vendredi,
l'a renforcée,
comme un gros drame également. Est-ce que ça l'a renforcée dans une conviction que les femmes ce ne sont pas des personnes bienveillantes et qui les empêchent de vivre leurs pulsions et puis leurs désirs affectifs? Dans 98% des cas, ce sont des garçons qui passent à l'acte.
Alors après, c'est vrai que tout le monde essaie de comprendre comment ce gamin de 14 ans a pu passer à l'acte et a pu poignarder cette surveillante de 31 ans à Nogent dans la Haute-Marne. Mais c'est vrai que voilà, c'est assez inexplicable. Jérôme Lavrieux, on écoutait le procureur hier qui disait que ce gamin n'avait absolument aucun sentiment, aucune compassion après son acte. Alors effectivement, on invite tous des psychanalystes, etc. Mais c'est compliqué, quoi.
Et si j'ai bien lu, il était même référent anti-harcèlement. Exactement. Dans son établissement.
Il avait été choisi par ses professeurs.
Donc, pour Elisabeth Borne, quand elle s'est rendue sur place le jour même des faits, elle a rencontré l'équipe pédagogique et elle est ressortie en disant qu'il était particulièrement bien intégré.
Exactement.
Dans son collège.
Donc, tout comme ses parents d'ailleurs.
Oui.
Toutes les explications du monde et les tentatives d'explication, là on ne sait plus où en venir. Aller me trouver une explication fumeuse, de dire c'est parce que toutes les surveillants étaient des surveillantes qu'il y aurait un problème. C'est pas parce que tu mets une cravate rayée des années 70 que t'es un mauvais psychanalyste, mais quand même, là, il va falloir arrêter, faut se poser.
Après, c'est le boulot des psys d'essayer de trouver des explications. Hein.
Ouais, le boulot des psys, c'est de trouver une explication quand on a fait une psychanalyse ou une étude psychiatrique de la personne en cause. Pas à distance comme ça. C'est d'ailleurs ce qu'il va falloir faire.
Parce que tous les faits,
un jour ou l'autre, ce jeune être humain, sera amené à sortir de prison. Donc il va falloir, je vous l'annonce, un jour ou l'autre,
sauf
il va
si
sortir de prison.
Lui interdit.
Il sortira de prison, mais il ira en établissement psychiatrique. Mais c'est pas un objectif dans la vie. Il va falloir prendre en compte les choses. Quid de la consommation forte ou non de réseaux sociaux, de jeux vidéo destructeurs, etc.
Ouais.
Donc il y a aussi des gens qui ont les fils qui se touchent à un moment ou un autre. Hein.
Anne-Sophie Saint-Père, est-ce qu'il faut qu'on arrête de vouloir expliquer l'inexplicable?
Oui, en tout cas, on ne peut pas expliquer aussi proche des faits. Là où cette personne qui était interrogée à la télé a raison, c'est que c'est vrai, la majorité des violences, elles sont commises par des hommes, et d'ailleurs, il y a une majorité d'hommes en prison. Mais en revanche, et là, je me réjouis que sur ce plateau, on dise qu'on ne peut pas donner d'explication sur un fait qui vient de se produire immédiatement. Ça va demander énormément de travail, justement, un travail d'analyse psy approfondie, un travail d'enquêteur. On ne saura probablement pas tout de suite, et donc c'est bien d'attendre. Et même si on a une explication pour ce cas-là, ça veut pas dire qu'on va pouvoir généraliser à toute la société. Et ça, il faut vraiment le garder en tête parce qu'on a déjà des politiques qui commencent à sortir des mesures comme si on pouvait tirer des conclusions de ce qui s'est passé, alors qu'aujourd'hui, on est d'accord qu'on ne peut pas. Donc plutôt que de se précipiter et de vouloir annoncer des choses avant qu'on ait la moindre explication, laissons les experts faire leur travail. Et ensuite, sur ce qui est la question de la violence masculine, ça fait bien longtemps que c'est connu, documenté. On peut tout à fait se tourner vers ce sujet-là, mais n'utilisons pas un fait divers sur cette question.
Frédéric Mal.
Il y a une chose qui s'appelle le mal.
le malin, le diable. Il y a plusieurs. Voilà. Il y a des gens qui sont inspirés par des forces obscures. Il y a des gens qui sont en dehors de l'humanité. Moi, ce qui est très choquant, c'est quand on écoute, comme j'ai pu écouter hier le procureur, c'est aucun regret. Il ne s'est même pas dit j'ai eu un coup de colère. Non, il est froid. Aucune empathie. Il y a des gens qui ne sont pas comme les autres êtres humains, qui sont inspirés par quelque chose de différent des autres, pour qui la vie humaine ne représente rien. Le type a tué une femme, il a tué sa propre vie, et ça ne lui fait rien.
Et celle de ses parents.
Et celle de ses parents.
Et les gamins qui
ont vu, hein, parce que on n'en parle pas de cela, mais dans quel état vont être les gamins qui, à 14 ans, ont vu un meurtre d'un des leurs sur une surveillante? Non, mais les dégâts sont incroyables. Mais il y a des choses qui ne peuvent s'expliquer que par l'absence d'humanité totale. Voilà.
Ou par du long terme, voilà. Il va être suivi par des psys. Ouais,
la psychiatrie.
La psychiatrie. Ah ouais, et puis après, on aura des réponses. Peut-être là, il est en train de parler, il est mis en examen. On va voir si à un moment, il se montre un peu plus loquace.
Mais il ne faut pas oublier qu'il y a le mal aussi.
Oui, mais justement.
Il y a des gens qui sont naturellement mauvais.
Ouais, enfin,
mal. Le mal existe.
J'entends pourquoi ce genre d'explication, ça te rassure, mais en fait, la vie est beaucoup plus compliquée que ça. On a beaucoup parlé de la série Adolescent qui montre justement une histoire de crime. Et en fait, tout n'est pas aussi binaire. On peut avoir un enfant qui est aimé de sa famille et qui vrille. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et ce serait rassurant si, oui, il y avait le mal et on pouvait tout mettre sous le tapis.
J'ai pas dit que c'est binaire.
Mais la vie est plus compliquée que ça, Fred.
Non, mais moi, pardonne-moi, je termine là-dessus.
Ah, mais tu as le droit
je crois que le mal existe. Il y a des gens qui sont inspirés par le mal. Je suis désolé. Et on en rencontre. Et là, c'est un exemple. Voilà.
Les GG, ce matin sur RMC. Bah tiens, ça va faire plaisir à Anne-Sophie Saint-Père. Faut-il taxer les gens les plus riches pour résorber la dette de la France? Deux députés de gauche qui se sont inspirés des travaux de l'économiste Gabriel Zucman proposent d'instaurer un impôt plancher sur le patrimoine des 1800 foyers les plus riches. Un dispositif qui les empêcherait de faire de l'optimisation fiscale et permettrait de récolter plus de 20 milliards d'euros. Une belle façon surtout de les faire fuir pour l'entrepreneur. Emmanuel de Villiers.
L'essentiel de ces fortunes considérables est dans l'outil de travail, ce qu'on appelle l'outil professionnel, c'est-à-dire dans les entreprises en titre. Eh ben, on ne peut pas s'acquitter. Tu veux forcer les gens à vendre leur entreprise, à les vendre à l'encan, à la bourse. Les gens riches dont on parle, hein, ils ne sont pas plus cons que la moyenne. Généralement, ils sont parfois plus
ils
doués.
Vont se barrer.
Ils vont foutre le camp, ils vont prendre leur valise sans
se faire.
Et salut la compagnie. Et votre effort fiscal, vous allez vous le mettre où je pense, parce qu'il n'y aura rien du tout.
Votre argument,
ils seront en Suisse, ils seront en Angleterre, ils seront en Belgique, ils seront aux États-Unis.
Jérôme Lavrieux, est-ce qu'il faut taxer les plus riches dans notre pays pour résorber la dette?
Non. Il faut dépenser moins que ce qu'on fait rentrer comme argent. Ben, si taxer le plus riche ou pas riche, plus de gens, permettait d'avoir un budget excédentaire, des services au public fantastiques, des services...
C'est un gros travail. Je me suis posé...
Révolution musicale, conquête.
Los Angeles, c'est à New York, Saint Louis, Indianapolis. Je me suis renseigné sur l'EHPAD.
On a bien sûr pour vous un petit extrait.
Schmitt, premier fabricant français.
Vraiment de l'électricité, d'avoir la meilleure électricité.
Pleine de symboles, d'autant qu'un chêne, deux fois sur...
Ah ben, il est évident que les...
Typiquement, tu les as pas touchés.
Ouais, tu reçois des dividendes.
conditions sur kia.fr.
Cet été, Chin Chin Daf le loup,
c'est le cas par exemple d'Oxfam.
Nous parlons de ce projet qui est
Kering, moins 3%.
Moi, je suis sa sœur.
Et pourquoi cet autre?
Ils ne vont même pas perdre un mètre sur la taille de leur yacht. Donc ça ne va rien changer. Et sur la question du fait qu'ils pourraient quitter la France, il y a un mécanisme. Ils seront redevables de cet impôt pendant 5 ans. Donc franchement, pour 2%, ça ne vaut probablement pas le coup de partir. Et je rappelle qu'aux États-Unis...
L'imposant scherzo de la Grande, symphonie numéro 9 de Franz Schubert, joué par l'orchestre du Metropolitan Opera et par James Levine. Une dernière courte pause dans cette émission. Dans un instant, Robert Schumann.
Bonjour, c'est Stéphane Bern. Aujourd'hui est un jour important pour environ 2200 personnes qui fêtent leurs 65 ans en France métropolitaine et en Outre-mer. À tous ceux qui ont déjà franchi le cap des 65 ans et à ceux qui célèbrent cet anniversaire, vous entrez dans la zone à risque. Ça y est, j'ai toute votre attention. Il faut savoir que plus de 90% des personnes de 65 ans et plus sont déjà porteuses du virus responsable du zona. Et le principal facteur de risque, c'est tout simplement l'âge. Alors, si vous avez 65 ans ou plus, c'est le bon moment pour en parler avec votre médecin ou votre pharmacien. N'attendez pas, faites-le dès aujourd'hui. Plus d'informations sur demain-santé.fr.
Ce message de sensibilisation vous a été présenté par le laboratoire GSK.
De prime abord, personne ne déprime à l'idée de recevoir une prime. En prime, une prime, c'est une bonne nouvelle.
En ce moment, chez Nissan, la très bonne nouvelle, c'est la prime à l'hybride jusqu'à 7000 euros. Oui, 7000 euros. Pendant les jours hybrides Nissan, ne manquez pas cette prime exceptionnelle sur tous les crossovers hybrides Nissan Juke, Qashqai et X-Trail. Rendez-vous vite en concession Nissan pour en profiter.
Nissan.
Remis jusqu'à 4000 euros sur Juke Hybrid, 5000 euros sur Qashqai et 7000 euros sur X-Trail 9, identifié en stock jusqu'au 30 juin par rapport au prix au 1er mars. Détail Nissan.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Cet été, le Verbier Festival 2025 vous invite à vivre une expérience musicale inoubliable du 16 juillet au 3 août. Martha Argerich, Katia Bougnatichvili, Klaus Makela, Yun Chan Lim, Daniil Trifonov, Barbara Hannigan, Brad Meldo, Sonia Yancheva, Gauthier et Renaud Capuçon, le Béjar Ballet Lausanne, Yevgeny Kissin, Théodore Kurensis, le Verbier Festival du 16 juillet au 3 août. Réservez vos billets dès maintenant sur verbierfestival.com.
L'Offrande musicale, le festival hors norme créé par le pianiste David Frey, fait vibrer le classique en Haute-Pyrénées. Pour sa 5e édition, le festival renouvelle son engagement en faveur du handicap et réunit des artistes d'exception. Insula Orchestra et Laurence Equilbet, l'Orchestre National de France, Daniel Lozakovitch, Thierry Eskech, l'ensemble La Sportelle, Daniel Müller-Schott, Elisabeth Leonskaya ou encore Félix Kleiser. L'Offrande musicale du 29 juin au 11 juillet, réservée sur offrandemusicale.fr.
Du 13 juin au 25 juillet, les chorégies font vibrer le Théâtre Antique d'Orange. Verdi, Mozart, Prêt-Jocage, Capuçon, Lavilliers, Paul McCartney, retrouvez le chant dans tous ses états. Les chorégies 2025, un festival d'émotions. Réservation sur chorégies.fr.
Véronique Filippona, directrice du magazine Elle.
Pour ses 80 ans, Elle publie 4 hors-séries exceptionnelles. Mode, beauté, société. Elle raconte l'histoire des femmes à travers ses archives, ses couvertures mythiques et des photos inédites. En kiosque dès aujourd'hui, le numéro 2 de la collection anniversaire, les années 65 à 85.
Dans un instant, retrouvez la suite de votre programme sur Radio Classique.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 E-Tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990 euros hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Entrée des artistes sur Radio Classique.
écoute Anne, on te reconnaît plus. T'es devenue très très triste. Et là, j'ai craqué. Là, j'ai craqué et j'ai fait ce qu'on appelait à l'époque une crise de nerfs. Ce qu'on mettait un peu sur le compte de la crise d'adolescence, quoi. Mais c'était des cris, des pleurs. Ma mère se sentait tellement impuissante et désemparée qu'elle a fait venir mon père du bureau. C'est vraiment le mal-être qui s'est manifesté, quoi. Une énorme colère, une énorme tristesse. Je me rappelle m'être calmée difficilement, ouais. Je crois me souvenir qu'un médecin est venu pour me faire une piqûre pour pouvoir me calmer. Et puis après, je sais pas, j'ai un espèce de gros trou noir. Les jours d'après, je sais pas ce qui s'est passé. Puis après, j'imagine que je suis retournée au lycée, quoi. Donc bon, j'étais au lycée, donc après il y a eu la fac et une école de commerce et j'allais de dépression en dépression. Et puis je comprenais pas pourquoi en fait. Pourquoi j'étais mal et puis pourquoi j'étais bien. En fait, donc du coup, on m'a dit que je faisais des dépressions récurrentes. Bah, ok, je fais des dépressions récurrentes, mais mais je prends des médocs et puis la dépression, ça va mieux. Du coup, j'arrête les médocs. Puis du coup, je replonge en dépression. Et puis voilà, puis ça a duré des années comme ça. Ça a duré des années. Voilà, cette espèce de cirque infernal. Et puis, il y a eu une aggravation au fur et à mesure. Une aggravation, ça veut dire des phases dépressives de plus en plus dépressives. Et ce que je sais maintenant être des phases up, de plus en plus up, en fait. C'est-à-dire ce que je croyais être du bien-être, c'était en fait de l'exaltation. Je vivais, j'étais heureuse, je sortais, je voyais mes potes, je réussissais à l'école, j'écrivais plein de trucs, je réussissais tout. Enfin, j'avais le cerveau en ébullition, quoi. C'était vraiment... mon cerveau, il tournait tout le temps. Et puis je dormais moins. Mais en même temps, c'est pas grave, parce que j'avais pas besoin, j'étais pas fatiguée, donc... Et c'était top, quoi. C'était vraiment top. Et puis, à un moment, bim, ben... Plus je montais haut, en fait, dans l'exaltation, plus je descendais bas. En fait, la phase dépressive répond souvent à la phase maniaque, c'est-à-dire vous plongez après une phase hypomaniaque ou maniaque, et vous plongez aussi bas que vous êtes monté haut, quoi. Et la phase dépressive a une durée un peu exponentielle, quoi. C'est-à-dire qu'elle peut être plus longue qu'une phase maniaque. Une phase maniaque peut être très très courte, une phase dépressive peut être très très longue. Alterner ces phases, ça a duré jusqu'à... Bah, tout le temps, en fait. Ça a tout le temps duré. Donc, je suis restée de 15 à 40 ans sans diagnostic. Alors, du point de vue pro, l'école de commerce m'a vraiment plu. Et puis, bah, du coup, la vie professionnelle a commencé. Tourner en face un peu, hop... moi en tout cas, je peux vendre de la glace à un pingouin, donc j'ai trouvé un boulot tout de suite. Seulement, c'est des boulots qui ne me convenaient pas. Et du coup, j'ai commencé à faire une boîte, puis une autre, puis une autre, puis une autre, et puis bon, c'était une course en avant en fait. Et en même temps, j'allais de mal-être en mal-être, d'échec en échec. J'en suis même arrivé à ma dernière boîte. À composer les numéros de téléphone des gens que je devais appeler, ne pas composer le dernier chiffre et avoir une discussion comme si je les appelais, quoi, en fait. C'est à simuler les discussions, les négociations au téléphone que j'aurais dû avoir, mais en fait, j'appelais pas. J'appelais personne, j'étais tellement. J'avais la trouille, j'étais pas bien, j'étais. Ça allait pas, quoi. Ça allait pas. J'étais. Et là, en fait, c'était la maladie qui arrivait à son paroxysme, quoi. Et j'avais 40 ans. Ma première hospitalisation, ma fille avait 6 ans. Elle en a 18 aujourd'hui, donc c'était il y a 12 ans. J'ai été hospitalisée pour état dépressif majeur, tentative de suicide. Moi, j'étais dépressive et là, j'étais juste méga dépressive. Je voulais mettre fin à mes jours. Voilà, mon problème, c'était ça. C'était je voulais mourir. Arrêter de souffrir. Et je suis restée 8 mois en hospitalisation. Alors, je me souviens qu'il y a eu pas mal de traitements qui ont été essayés, qui fonctionnaient. Alors, c'est pas qu'il fonctionnait pas, mais qu'il provoquait des phases maniaques ou des effets indésirables trop importants. Enfin, genre, il y en avait un, j'avais des jambes comme des poteaux, il y en avait un autre, j'étais complètement dans le... même à toute petite dose infime, j'étais complètement, enfin, ce qu'on appelle nous, un zombie, quoi. Ou alors, il y en avait un, je devenais complètement parano. J'avais l'impression qu'on disait du mal de moi tout le temps. Donc, il a fallu changer de traitement. Donc, il y en a beaucoup qui ont été essayés. C'était rude, c'était vraiment rude. Je crois que c'était l'hospitalisation la plus difficile. Ensuite, il y en a eu une deuxième quelques années après. Et entre-temps, entre les deux hospitalisations, j'avais repris des études pour devenir infirmière en psy, comme hasard. Et arrive le cours de psychiatrie, le module de psychiatrie. Et là, pendant le cours, je me dis, putain, trouble bipolaire. Je me dis, ouais, c'est marrant. Oh tiens, c'est marrant. Puis je... Donc au moment de la deuxième hospitalisation, donc là je plonge de nouveau, ça va pas, redépression. Mais là j'ai eu une espèce de lueur quoi. Les troubles bipolaires c'est moi. Et je vois la psychiatre et je lui dis mais c'est pas ça que j'ai. Et elle m'a dit si. Donc voilà comment le diagnostic est tombé. Donc voilà, j'avais 40 ans. À base de thymorégulateurs, d'antipsychotiques et de mini-doses d'antidépresseurs qui ont permis de me stabiliser. Jamais très longtemps, mais quand je dis jamais très longtemps, c'était jamais plus de quelques mois, mais ça a au moins eu cet effet-là. Et c'était une des premières fois que, depuis mon enfance, hein, que je savais ce que c'était de ne rien ressentir, ni trop ni trop peu. Alors j'étais contente parce qu'il n'y avait plus de dépression, mais alors pour l'hypomanie, vivre sans hypomanie, c'était... Il n'y a pas un bipolaire qui n'aime pas l'hypomanie. On adore ça. L'hypomanie, c'est génial, vous êtes bien tout le temps. Vous n'avez pas besoin de dormir, ou peu, vous n'êtes pas fatigué, et vous pouvez faire plein de trucs, plein de trucs, c'est super. Et vous arrivez à tout faire, enfin c'est génial quoi, c'est génial. Et en plus vous êtes hyper créatif, tout le monde vous regarde avec... Avant, on vous regardait avec dépit, là, on vous regarde avec admiration, limite, parce que vous êtes capable de tout. Vous êtes capable de tout. Jusqu'à ce qu'arrive la dépression. Et puis, j'ai eu un énième traitement, donc la dépakote, qui là, par contre, elle me stabilise. Enfin, il y a une très bonne réaction, quoi, en fait. J'avais vraiment le sentiment d'avoir atteint le bien-être. Ni trop bien, ni trop mal, quoi. Vraiment le bien-être. Waouh, quoi. Donc super, ravie, quoi. Heureuse. Et puis ça tient 2 ans. Et puis arrive le Covid et je prends ma fille par le bras, je préviens son père, on était séparés, je préviens son père. Et on part chez mes parents en Bretagne. 3 slips, 2 paires de chaussettes et on s'en va, quoi. Et ça loupe pas, 3 jours après, on est confinés. Et là arrivent les problèmes de rupture. Et la dépakote était en rupture chez mon pharmacien. Elle me dit non, j'en ai plus en stock, bon c'est pas grave, je commande. Puis il arrive à avoir la moitié de mon ordonnance, quoi. Elle me dit je commanderai le reste pour plus tard, quoi. Bon ok. Et puis je reviens au bout de 10-12 jours pour chercher le reste de mon traitement. Et là on me dit non, j'en ai pas. Le fournisseur n'en a pas non plus. Et puis finalement, ils contactent le labo, et le labo n'en fabrique plus. Donc, plus de dépakote, rupture. Je vais voir une autre pharmacie, ils en ont. Bon, donc j'arrive à avoir, je ne sais plus, peut-être 1 semaine, 10 jours de traitement. Bon, je m'en sors comme ça. Et j'ai réussi à bidouiller comme ça, 1 fois ou 2, quoi. Et entre-temps, il y a eu l'angoisse, justement. C'était la première fois que j'étais relativement bien stabilisée. Depuis 2 ans, pour moi, c'était éternel, quoi. Je veux dire, ça m'était jamais arrivé, 2 ans de suite, quoi. Donc, il me fallait mon traitement, quoi. Donc, j'ai fait plusieurs pharmacies. J'en ai fait venir de Paris par des amis. Ma mère qui avait demandé une ordonnance à son médecin, bon, ça n'a pas marché. Elle avait demandé que mon traitement soit prescrit sous son nom pour que je puisse avoir 2 fois la dose, pour que je puisse avoir un peu d'avance, en fait. Donc, mais le médecin n'a pas voulu. Et là, j'angoisse sérieusement. À la maison, c'est un espèce de cercle vicieux, c'est-à-dire j'angoisse parce que je ne suis pas bien, enfin parce que je risque de ne pas être bien. Mes parents angoissent parce que je risque de faire une crise qu'ils risquent de subir et ils risquent de se retrouver à nouveau désemparés, à nouveau impuissants. Et puis en plus, j'angoissais J'avais peur que ma fille angoisse parce que j'angoisse. Enfin, bon, bref, c'était un espèce d'imbroglio comme ça duquel j'avais du mal à sortir. Et puis cette fameuse angoisse de ne pas avoir mon traitement, quoi. Et de sombrer à nouveau et encore plus fort. Et puis, ben, à ce moment-là, du coup, la psychiatre me dit, ben, on va changer de molécule, on va prendre une molécule à peu près similaire, dépakine. Bon. Et donc, ben, il se trouve que chez mon pharmacien, il restait de la dépakine. Donc, ouf, je prends de la dépakine. C'est pas trop mal, la stabilité est toujours là, l'angoisse est toujours là aussi. Bon, je m'en sors. Et puis là, clac, on se remet à produire de la dépakote. Bon, ouf, soulagement. Mais ça a été un soulagement de courte durée. Ça a duré, ouais, quelques semaines. Et puis, de nouveau, rupture. Rien, nulle part, à ce coup-ci nulle part. Et là j'ai un copain qui est marocain, qui vit en France, et qui a un ami à lui qui est pharmacien au Maroc, et qui arrive à me procurer une boîte de dépakine. Et entre temps, bah, la boîte n'a pas eu le temps d'arriver, crise d'angoisse, crise de panique, je suis reparti dans une phase, quoi. Je suis reparti dans une crise, avec de nouveau des idées noires, de nouveau des idées suicidaires. Mais seulement là, ma fille était là. Donc tous les jours, je me levais en disant « Non, ne te suicide pas, ne te suicide pas, ne te suicide pas, ta fille est là, ta fille est là, ta fille est là. » L'angoisse était intense, je faisais des crises de panique, mais avoir l'impression que j'allais mourir, quoi. Mais j'allais mourir d'une crise cardiaque, où j'avais l'impression que j'avais le cœur qui allait imploser, quoi. Et j'avais aussi un sentiment d'injustice énorme. Je me disais « Mais les labos, quoi. Ils ont nos vies entre leurs mains, quoi. C'est pas du Doliprane, quoi. Je vais pas soigner un mal de tête, quoi. Je vais m'empêcher d'avoir des crises suicidaires, quoi. Je vais m'empêcher de me... Enfin, ce médicament m'empêche de me foutre en l'air, quoi. Et donc, du coup, ma psychiatre qui, elle, elle a bien conscience que... elle aussi, elle a ma vie entre ses mains, quoi. Bah là, elle me dit, dans ce cas-là, on change de molécule. Voilà. Et c'est là que j'ai changé de traitement. On en a testé plusieurs avant d'en trouver une autre. Et puis est arrivée la molécule que je prends aujourd'hui, qui fonctionne bien. Mais en fait, j'ai tellement peur. En fait, cet épisode-là m'a tellement marqué que j'ai tellement peur de manquer que j'ai 6 mois d'avance. Voilà. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller chercher mon traitement toutes les 4 semaines, comme je faisais habituellement, je vais le chercher toutes les 2 semaines et demie, 3 semaines, pour être sûre d'en avoir d'avance, au cas où il vienne à manquer. Les solutions qu'on a ne sont pas satisfaisantes. Et non, on ne peut pas se contenter d'être un peu bipolaire plutôt que énormément bipolaire. Non, on ne peut pas se contenter d'avoir des vies comme ça. On ne peut pas. Et comme tout le monde, on a droit à une vie correcte. Et on peut avoir une vie correcte avec des troubles bipolaires. On peut avoir des postes à responsabilité. On peut avoir un boulot. On peut avoir des loisirs. On peut avoir des amis. On peut avoir de la famille. Voilà, malgré cette maladie ou avec cette maladie.
René-Pierre Clément, je suis pharmacien d'officine à Thionville, en Moselle. Je suis de la 3e génération de pharmaciens. Mon grand-père a eu en premier cette officine à Thionville. Ensuite, papa l'a exploité de 73 à 2011 et je l'ai repris en 2011. C'est une clientèle essentiellement de quartier et Thionville représente également une spécificité. On a beaucoup de travailleurs frontaliers, donc qui travaillent au Luxembourg, et comme la plupart des pharmacies, une patientèle assez âgée de patients que l'on qualifie de chroniques, c'est-à-dire qui ont des traitements réguliers. Les patients pour qui il y a eu ce problème d'approvisionnement en médicaments, ce sont des patients dont l'histoire remonte également comme celle de ma famille et la pharmacie à 3 générations, qui m'ont connu tout petit, qui ont connu mes parents tout petit, qui ont connu mes grands-parents. Il s'agit donc d'un couple de 80 ans. Ce monsieur a travaillé pendant de nombreuses années, comme beaucoup d'autres personnes dans la région, pour la sidérurgie. Ensuite, il a pris sa retraite. Donc, comme tout patient chronique âgé, il a différents traitements. Puis sa santé a décliné au cours des années. Ça faisait quelques années qu'il était malheureusement alité. Et sa sa femme venait chercher ses traitements, effectivement, assez régulièrement. On lui a fourni un lit médical. Et à la période du Covid, quand il a fallu le vacciner, il n'y avait plus d'infirmières qui se rendaient à domicile. Nous n'étions à une période pas autorisés à vacciner en dehors de nos murs, mais bien évidemment, pour ce patient, j'ai fait une exception. J'avais été à domicile. Il y avait un risque majeur. Quand même, son épouse sortait, elle est dans les magasins, donc il y avait un risque de contamination. Donc j'ai fait la part des choses. Donc j'ai pris la décision de faire cette vaccination. Et ensuite, tous les rappels, comme de nombreux Français l'ont connu, le schéma des rappels de vaccination qui était très fortement recommandé à une époque. Malheureusement, il l'a décliné et je pense.
T'es qu'une blonde, tais-toi, sois jolie. C'est la revanche d'une bombe. Je crierai sans voix, le monde m'entendra. J'écrirai sans toi, j'ai pas besoin que tu me croies. Je veux me sentir belle sans me sentir comme. Je veux être comme elle, me sentir forte. Je veux être toutes ces femmes à la fois. Mon visage mauvais.
Une rafale de tubes.
Des failles que l'on répare à deux, des temples où l'on reste heureux. C'est beau parce qu'on a de mieux. Pour moi, c'est ça l'amour. C'est comme une main tendue, à l'instant plus inattendu, venant d'un ou d'une inconnue. Pour moi, c'est ça l'amour. Oui, lorsque tout est noir. Pour moi c'est ça l'amour. C'est offrir sans un mot, un refuge contre tous les maux. C'est être dans le même bateau. Pour moi c'est ça l'amour. Oui, lorsque tout est noir, tout est chaos, que même l'espoir nous fait défaut. Il nous fait croire en bien plus haut.
Amor. de 13h à 14h sur Fréquence 3, c'est French Radio.
J'ai juste besoin de tes yeux, de leur éclat dans la nuit. Tu sais, je finirai peut-être pas vieux, mais ensemble on fera du bruit. On criera tous les deux à l'ombre de la pluie. Mais avant faut que je poste ma story ce soir avant minuit. Je laisse filer la folie. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt. Pour toi je sillonne le monde à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau. Tu vois si je joue le jeu, c'est pour que tes yeux baissent les armes, le temps de rallumer la flamme. Si je joue le jeu, c'est pour que tes yeux sèchent leurs larmes, quitte à le payer de mon âme. Si je joue le jeu, moi de quoi j'ai l'air, peu sort j'en ai assez. Prendre la lumière des néons fatigués. J'en ai rien à faire si je dors m'y brûler. J'prendrai la lumière
si je joue le jeu.
Moi de quoi j'ai l'air, le soir j'en ai assez. Prendre la lumière des néons fatigués. J'en ai rien à faire si je dors m'y brûler. J'prendrai la lumière
pour mieux t'adorer.
J'ai tout ce qu'il me faut, l'amour des miens, le soleil dans la peau. Et quand tournent les chiens, moi je leur tourne le dos. Derrière mon sourire y'a tes mots. C'est pour toi que j'tends la main. Quand tu cries, ça me tient chaud. Faut pas que je brûle avant la fin.
Pour toi, je sillonne le monde
à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes s'il est trop tard ou bien trop tôt.
Pour toi, je sillonne le monde
à la poursuite de tes bravos, en me demandant toutes les secondes est-ce que ça me mène en bateau.
Tu vois si je joue le jeu, c'est pour que tes yeux baissent les armes, le temps de rallumer la flamme. Si je joue le jeu, c'est pour que tes yeux sèchent leurs larmes, quitte à le payer de mon âme.
Si je joue le jeu, moi de quoi j'ai l'air, peu sort j'en ai assez. Prendre la lumière des néons fatigués. J'en ai rien à faire si je dois m'y brûler. J'prendrai la lumière
si je joue le jeu.
Moi de quoi j'ai l'air, peu sort j'en ai assez. Prendre la lumière des néons fatigués. J'en ai rien à faire si je dois m'y brûler. J'prendrai la lumière
si je joue le jeu.
Fréquence 3, la radio 100% locale. C'est 100% Loir-et-Cher.
100% Loir-et-Cher.
K.O. En une heure à peine, tu m'as mis K.O. Je vais quitter la scène, étendre le studio. Mais qui me relève quand c'est toi qui m'achève? Sortez-moi de ce mauvais rêve. Non mais allô, c'est trop facile quitter comme ça le bateau. Et toutes nos promesses, les foutre à l'eau. Je viendrai te chercher à la nage. Reconnaîtrai ton visage, même si ton cœur fait naufrage. Tu sais quoi, je vais arracher tout ce qui parle de toi. J'apprendrai même si c'est pas mon choix. Ouais, t'as tout niqué cette fois. Souviens-toi, ta personne préférée c'est moi. Même sur cette chanson j'entends ta voix. Mais je peux plus y croire pour toi. J'ai pas envie d'avoir 30 ans sans toi. J'ai pas envie de dire aux gens tout ça. Si c'est pas nous, moi j'ai pas d'autres plans. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? J'ai pas envie qu'on me dise que ça passera. Il faudra bien guérir du mal de toi. Mais dis comment trouver le médicament. Tu vas me quitter encore longtemps. Je voudrais rallumer ta flamme, nous faire cramer de bonheur. Mon électrocardiogramme bat en fonction de ton cœur. Je voudrais créer un hologramme pour retrouver ton odeur. Mais je peux passer ça le drame. T'es ma 404 erreur. Tu dis que je suis rien qu'une enfant, mais on voulait deux enfants. On avait déjà leur prénom. Je voulais voir ton ventre rond. T'aurais recoupé ta frange et mélangé nos les deux reins. Et même après tu te souviens. Tu sais quoi, je vais arracher tout ce qui parle de toi. J'apprendrai même si c'est pas mon choix. Ouais, t'as tout niqué cette fois. J'ai pas envie d'avoir 30 ans sans toi. J'ai pas envie de dire aux gens tout ça. Si c'est pas nous, moi j'ai pas d'autre plan. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? J'ai pas envie qu'on me dise que ça passera. Il faudra bien guérir du mal de toi. Mais dis comment trouver le médicament. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? Oh, t'as sali notre amour pour une putain de sorcière. Tu te rendras bien compte un jour que t'as tout foutu en l'air. Mon cœur qui va le recoudre, j'ai brûlé ta marinière. On avait eu un coup de foudre, t'es parti en un éclair. J'espère que tu penses à moi quand tu te perds dans son corps. Cette conne ne connaîtra pas le vrai toi qui valait de l'or. Et quand tu vas décaper ton petit cœur avec du chlore, c'est mon reflet que tu verras dans une piscine de remords. Tu m'as mis KO. Je vais quitter la scène, éteindre le studio. Mais qui me relève quand c'est toi?